bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc, pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode aujourd'hui. Aujourd'hui, petit sujet d'actualité, on va en voir trois, dont un en fait qui est mélangé avec une question d'un auditeur. Donc pour commencer, pour tous ceux qui n'ont pas vu, ce week-end j'ai sorti ce que j'ai appelé l'art du jeûne. Donc c'est mon point de vue sur le jeûne intermittent, sur la façon de le mettre en place quand on est pratiquant de muscu, qu'on veut perdre de la graisse, qu'on veut essayer de faire un petit peu au mieux. Alors moi je suis pas un pratiquant long terme du jeûne intermittent. C'est-à-dire que, enfin, vous savez, hein, si vous écoutez mes podcasts, que le jeûne intermittent, pour moi, n'est pas une diète long terme, pour moi. Donc, ça peut être le cas pour d'autres personnes, peut-être pour toi qui m'écoutes, j'en sais rien. Moi, personnellement, c'est pas une diète long terme, c'est plutôt une diète moyen-court terme. Et j'avais envie, parce que je recevais beaucoup de questions, d'apporter un petit peu de lumière sur ce que moi je pratique, comment je le fais finalement et à quel moment le mettre, etc. Donc, si ça vous intéresse de voir ça, vous avez le lien dans les notes de l'épisode. Et deuxième chose que j'ai proposé vendredi 13, alors vendredi 13, pourquoi ? Parce que j'avais fait une petite réduc là-dessus, c'est que j'ai proposé quelque chose qui est toujours valable, mais bon, il n'y a plus la réduction aujourd'hui, vous voyez à quel point je suis le meilleur vendeur du monde, je vous propose un truc où il n'y a plus de réduction, c'est que j'ai proposé en fait aux personnes qui veulent continuer à s'entraîner à la maison, pendant le confinement, de faire une petite visite guidée de leur lieu qu'ils ont actuellement pour s'entraîner, donc leur salon, leur salle de bain, leur chambre, leur garage, n'importe quoi, n'importe quel équipement qu'ils peuvent avoir, une table basse, des haltères, n'importe quoi. Le but, on s'appelle en Skype, vous me montrez ce que vous avez, et moi, à partir de ça, je vous fais quelque chose du le plus cohérent possible par rapport à vos objectifs. C'est pour m'adapter au mieux par rapport à la situation. Donc là, sachez une chose, ne soyez pas pressés. Déjà, toute cette semaine, elle est pleine. J'ai déjà eu des réservations pour toute la semaine. Le début de semaine prochaine, j'en ai quelques-unes également. Donc, ça sera milieu de semaine prochaine. Milieu, fin de semaine prochaine. Voilà. Donc, c'est pareil. Ça, si vous voulez voir, vous allez sur mon site, coaching, et puis c'est là que ça se passe en fait. Sinon, allez voir vos mails, je vous avais envoyé un mail pour vous dire ça. Donc toujours pareil, pendant le confinement, je continue à vous envoyer le matin mes petites recettes pour vous aider à manger un peu plus sainement, en tout cas d'avoir quelques petites idées comme ça pour manger différemment durant le confinement. Et c'est gratuit, ça demande souvent pas beaucoup de temps parce que c'est des recettes assez simples que moi je fais régulièrement. Donc voilà, allez, on démarre l'épisode avec les actus. La première actualité du jour que j'ai trouvé, c'est un article de, je me rappelle plus comment il s'appelle, j'aime bien citer l'auteur quand même, c'est Jérémy Anso qui écrit, je crois qu'il a écrit pour, il écrit sur le blog ou le site Dura à avaler, mais également il a des bouquins, je sais pas si c'est pas en partenariat avec lanutrition.fr, enfin bon bref, donc voilà. Et en fait il a fait un article que j'ai trouvé intéressant sur riz blanc, brun ou complet, les bienfaits, les risques et comment le cuire idéalement. Donc, je vais juste vous citer des passages de l'article que j'ai trouvé intéressant, notamment celui sur les IG, donc les index glycémiques. Donc, je cite, pour le riz, l'index glycémique varie entre 50, donc un IG bas, et 90, donc un IG élevé, en fonction des variétés et des personnes testées. Souvent, cette notion, elle est oubliée, des personnes testées. Pour les différents types de riz, voici les index glycémiques. Le riz brun, 50. Le riz blanc, 48 à 76, le riz basmati 49 à 67, le riz jasmin 61 à 90, le riz à cuisson rapide 87. Donc on voit bien que là, les riz qui peuvent être intéressants c'est le riz basmati et le riz brun entre guillemets, mais on va voir qu'il y a d'autres notions à savoir. Bon, après il faut savoir une chose aussi, c'est que riz froid ou riz chaud, l'IG est modifié. Plus c'est chaud, plus l'IG monte et vice versa quoi. Un peu comme la pomme de terre. Bon, on continue parce que j'avais dans l'article noté autre chose. Par rapport à l'arsenic. Il dit, donc je cite, « La présence d'arsenic dans le riz est une réalité, un peu trop souvent mise sous le tapis. Il pourrait pourtant agir en tant que perturbateur endocrinien et endommager les cellules bêta du pancréas responsables de la synthèse de l'indispensable insuline pour faire baisser le taux de sucre dans le sang. » Donc il donne une petite méthode, qui vient des chercheurs, donc je recommence à citer. D'autres chercheurs ont pu établir un protocole précis pour maximiser la neutralisation de l'arsenic et la préservation des nutriments du riz brun qui contient le plus d'arsenic. La méthode, petit 1, porter une grande quantité d'eau à ébullition. 2, rajouter le riz complet et le faire bouillir pendant 5 minutes. 3. Se débarrasser de l'eau de cuisson. 4. Cuire le riz comme vous avez l'habitude de faire. Cette méthode permet de réduire la quantité d'arsenic de 54% dans le riz brun et de 73% dans le riz blanc. Donc voilà, petits outils qu'il nous donne. Donc merci à lui et on passe à la prochaine actualité. Alors la prochaine actualité que j'avais récupérée, c'était on reste un petit peu dans le thème Covid-19 avec la mélatonine. Donc le titre, donc là c'est un article de alors moi j'aime bien citer les auteurs plus que les sites parce que c'est Marie-Céline Ray sur lanutrition.fr. L'article s'appelle Covid-19, la mélatonine, une piste préventive intéressante. Selon une étude américaine récente, la mélatonine, une molécule naturelle, pourrait aider à lutter contre la Covid-19. Alors, ce que montre l'étude, là, je cite, des chercheurs de la clinique Cleveland ont voulu utiliser l'intelligence artificielle afin de trouver des médicaments déjà employés pour d'autres affections et qui pourraient aider à traiter la Covid-19. Donc en gros, avec une manière algorithmique. Autre citation, en tout, les auteurs ont identifié 34 médicaments potentiels, parmi lesquels la mélatonine apparaît comme le plus intéressant. Aussi appelée hormone du sommeil, la mélatonine intervient dans le contrôle des cycles veille-sommeil de l'organisme. Les chercheurs ont aussi trouvé que les patients qui prenaient de la mélatonine avaient 30% de risque en moins d'être positifs au coronavirus, et même moins 52% pour les Afro-Américains. Cependant, pour Feixong Chen, principal auteur de cette recherche, il dit « Ces résultats ne suggèrent pas que les gens devraient commencer à prendre de la mélatonine sans consulter leur médecin. » Donc c'est toujours pareil. Hein. Moi je suis contre, vous savez, les trucs miracles, etc. Mais par contre, je suis pour la connaissance. Le fait de le savoir, bon... Voilà, ça donne des pistes. Ça donne aussi la piste de la qualité du sommeil. Hein. Parce que qui dit bonne qualité de sommeil, c'est que potentiellement, les taux de mélatonine sont... on s'attend à ce qu'ils soient mieux que quand on dort mal, quoi. Donc il y a quand même un rôle, encore une fois, avec le sommeil. Et ça tombe bien parce que le troisième article, qui est mélangé à une question d'ailleurs, parle aussi du sommeil. Donc je vais vous lire la question... Je vais vous lire après un article et puis on va revenir à la question par la suite. Alors la question de l'auditeur, qu'est-ce que c'est ? Bonjour de la Tunisie, je viens de lire un article parlant du spécialiste du sommeil de Cristiano Ronaldo qui lui a conseillé d'instaurer un système de 6 siestes de 90 minutes et dormir seul en position fœtale. Toi qui as longuement étudié le sommeil, j'aimerais avoir ton avis si c'est possible. Merci et bonne continuation. Donc en fait, j'ai fait un petit peu de recherche par rapport à ça afin de trouver un petit peu plus de détails sur ce spécialiste et cette méthode recommandée à Cristiano Ronaldo. Je regarde, donc je reprends mon article où ils en parlent, c'est sur le magazine GQ. Ils parlent de ça, donc c'est certainement le contenu qui a fait un petit peu plus la une ces derniers temps. Le titre de l'article, c'est « Voici la méthode de sommeil de Cristiano Ronaldo avec laquelle vous ne serez plus jamais fatigué ». Le titre, bon, bref. Donc, Nick Littlehales, président de UK Sleep Council et expert du sommeil, a travaillé avec Cristiano Ronaldo pour trouver comment il pouvait fonctionner de manière optimale. J'ai noté également que... alors, je reprends la partie qui m'intéresse. Selon Littlehales, le conseil qu'il a donné à Cristiano Ronaldo était d'oublier complètement le sommeil de 8 heures d'affilée parce que cela lui serait nocif et lui a plutôt suggéré de mettre en place un système de 6 siestes de 90 minutes étalées dans le temps pendant 24 heures. Selon l'expert, un sommeil prolongé provoque des rythmes anormaux tandis que de courtes pauses en sieste offrent une meilleure récupération entre les entraînements et permettent aux 6 repas qui se compose d'un petit déjeuner, de deux déjeuners, d'une collation et de deux dîners quotidiens, d'être bien traité. Et si vous trouvez ça étrange, blablabla, il dit aussi que de porter des vêtements de nuit propres et utiliser un matelas en mousse de latex de 4 pouces, donc j'imagine que c'est, vous savez, les trucs à mémoire de forme, j'en ai un d'ailleurs, c'est pas mal, enfin, il est pas 100% mémoire de forme, d'ailleurs, moi, l'oreiller mémoire de forme me réussit mieux. Un détail le plus intense, il dit, selon Littlehales, et que Cristiano doit dormir seul ou avoir un lit au moins assez grand pour que l'espace du footballeur ne soit pas envahi par sa partenaire, et ainsi, il pourra avoir le repos parfait. Ça, alors qu'est-ce qu'il dit d'autre ? Comment fonctionne cette dynamique ? Selon ce que dit l'expert, c'est uniquement avant les matchs. Alors peut-être qu'il ne le fait pas tous les jours. À propos, il doit dormir en position fœtale, car elle est idéale pour les os et les organes internes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Bon, c'est à peu près tout ce qu'il y a sur... Alors c'est GQ Mexico, hein, c'est pas GQ France, c'est Mexique. Bref. Je reprends la question de l'auditeur parce qu'elle me semble plus cohérente pour répondre avec mon point de vue. Je viens de lire, donc il disait l'article, il conseillait de faire ses siestes, 6 siestes de 90 minutes et de dormir seul en position fœtale, etc. etc. Bon, première chose, on va parler des 6 siestes de 90 minutes. Donc déjà, c'est pas écrit là, mais pourquoi 90 minutes ? 90 minutes étant en moyenne la durée d'un cycle de sommeil. C'est-à-dire que quand vous vous endormez, vous passez par plusieurs étapes. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs phases. Donc vous allez être éveillé, puis après vous allez avoir un sommeil léger, puis après vous allez avoir un sommeil profond, et ensuite le sommeil paradoxal. Ensuite vous allez revenir au point de départ, c'est-à-dire un micro-éveil et un sommeil léger, que vous n'allez pas percevoir durant la nuit. Les micro-éveils, parfois on les voit, parfois on les sent, parfois on les sent pas. Mais en fait, cette suite de phases, éveil, sommeil léger, sommeil profond, sommeil paradoxal, toutes ces phases rentrent dans ce qu'on appelle un cycle, et ce cycle dure en moyenne, tenez bien compte de ça, en moyenne 90 minutes. Donc pour avoir ces 7 à 8 heures de sommeil, comme c'est recommandé en règle générale, on va dire, il faut à peu près 5 cycles de 90 minutes. Donc si vous avez vos 5 cycles de 90 minutes, vous avez un sommeil, entre guillemets, qui rentre dans les normes des recommandations. Donc on voit que là, déjà, il y a un cycle de plus, puisque lui, c'est 6 siestes de 90 minutes. Donc il y a une période de plus. Donc déjà, est-ce que si on avait fait 6 cycles de sommeil de 90 minutes, est-ce que ça aurait pas été pareil ? C'est-à-dire que la personne, au lieu de dormir, parce que je crois que c'est 7h30, un truc comme ça, quand on fait 5 cycles de 90 minutes de mémoire, ça donne ça, quoi. Donc je regarde vite fait. Hop. Alors, si je fais mon calcul rapidement, normalement, quand vous avez vos 6 cycles de 90 minutes, vous avez un tout petit peu plus que les recommandations classiques. Donc ce qui pourrait être, on va dire, cohérent avec le sportif de haut niveau qui est Cristiano Ronaldo, parce que bon, il a certainement besoin d'un sommeil un petit peu plus, on va dire, je vais pas dire profond, je vais dire un petit peu plus long, un petit peu plus réparateur qu'une personne lambda. Après, Moi, là où j'ai un problème par rapport à ça, c'est que tous ceux qui ont testé... Enfin, déjà, il y a ce qu'on appelle l'inertie du sommeil. Qu'est-ce que l'inertie du sommeil ? L'inertie du sommeil, en fait, c'est l'état dans lequel vous vous trouvez au moment où vous vous réveillez. Vous savez, cet état où vous êtes un petit peu gazeux, vous savez, un petit peu la tête encore dans l'oreiller alors que vous êtes debout. Ça, c'est l'inertie du sommeil. Donc, c'est ce côté un peu inactif où on manque d'énergie au moment où on se réveille. Et chez certaines personnes, parce que j'imagine que la question de l'auditeur, c'est de voir s'il peut se l'appliquer à lui, chez certaines personnes, cet effet peut être plus ou moins long. Donc, il y a des gens qui, quand ils sortent du lit, pendant 5 minutes, ils ont la tête à l'envers et après, c'est bon, ils ont la patate, quoi. Et il y a d'autres personnes qui, quand ils se réveillent, par exemple, ils vont se réveiller à 7 heures, ils se sentent pleinement réveillés qu'à 9h30, 10h. Donc, il y en a beaucoup qui vont mettre ça sur le compte d'un sommeil de mauvaise qualité, alors que c'est peut-être simplement de l'inertie du sommeil. Il faut savoir une chose, c'est que cette fameuse inertie du sommeil, elle est d'autant plus importante qu'on s'est réveillé dans un mauvais cycle, au milieu d'un cycle, au lieu d'à la fin d'un cycle. Et c'est pour ça qu'en règle générale, se réveiller naturellement est souvent mieux que se réveiller avec un réveil. Parce que quand on se réveille avec un réveil, le réveil, il respecte pas vos cycles. C'est-à-dire que vous avez demandé à votre réveil de vous réveiller à 6h30 ou 7h du matin, et il va pas savoir si vous êtes au milieu d'un cycle, ou à la fin, ou au début, etc. Alors qu'un un réveil naturel, donc c'est-à-dire par exemple par la lumière du jour, pas quelque chose d'invasif en fait. La lumière du jour va vous réveiller à un moment où vous allez avoir le sommeil très léger. Donc potentiellement, avant de rentrer dans un nouveau cycle, dans le moment où vous allez être en micro-éveil. Donc bon, bref, ça peut compter. C'est-à-dire que si vous vous réveillez au milieu d'un cycle, vous pouvez ressentir cet effet un peu tête dans le cul, faut dire comme ça, plus longtemps. Chez certaines personnes, elles ont le même effet quand elles font des siestes. Et moi, je suis un amateur de sieste dans le sens où je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant de faire des siestes. Enfin, une sieste, moi, je suis pas pour en faire plein dans la journée. Une, ça suffit. Pour les personnes qui se lèvent relativement tôt, ont un travail assez important, alors que ça soit physique ou mental. Mental, d'ailleurs, j'ai trouvé qu'il y avait plus d'avantages quand c'est un travail mental un peu intense, mais qui ont toute une matinée bien remplie. Ça permet de faire une petite pause, une petite remise à niveau avant de réattaquer la deuxième partie de la journée. Pour avoir fait plusieurs tests, je peux vous donner par exemple mes propres durées idéales. La première durée idéale, c'est 10 minutes ou moins. 10 minutes ou moins, là il y a zéro inertie du sommeil. On recharge un tout petit peu les batteries et on n'a pas du tout l'effet néfaste de la fatigue après une sieste. Au-delà de 10 minutes, donc jusqu'à 20 minutes, ça fait quasiment le même effet, mais on va ressentir une toute petite inertie du sommeil qui peut durer 15 minutes à peu près. Au-delà de 20 minutes, donc on va dire, souvent les gens ils vont dire on va partir sur une sieste de 30 minutes, là ça commence à devenir compliqué, on ressent vraiment l'effet du sommeil. Et on ne peut pas donner des chiffres fixes parce que certaines personnes, quand elles vont faire une sieste, en fait, j'avais regardé pas mal de conférences des spécialistes là-dessus, ils disaient, vous savez, quand vous dormez durant une sieste, il est possible que parfois vous rêviez, et des fois non. Des fois, vous allez dormir, des fois, non. Et en fait, comme si votre organisme vous mettait plus ou moins rapidement dans la phase désirée, dans celle où il a ses propres besoins. Parce que vous savez que dans la phase de sommeil, il y a plusieurs phases au niveau du sommeil, comme j'ai dit tout à l'heure, chaque phase a sa caractéristique. Donc, il y en a certaines qui vont travailler plutôt sur la mémoire, d'autres plutôt sur la récupération physique, et d'autres plutôt sur la digestion mentale des événements, la mémorisation, toutes ces choses-là. Et quand on fait des siestes, ça peut être aléatoire le ressenti, mais également l'intensité à laquelle on descend profondément dans le sommeil en fonction des besoins. Donc une personne, par exemple, qui n'a pas assez dormi la nuit précédente n'aura pas la même sieste qu'une personne, même à durée égale, n'aura pas la même sieste qu'une personne qui aura dormi 7 heures ou 8 heures la nuit précédente. Donc toutes ces données-là, faut les prendre en considération parce qu'on ne peut pas donner des valeurs brutes comme ça pour tout le monde. Et je voulais dire également que donc je reprends mon test que moi j'avais fait. Donc 30 minutes, ça commence à devenir compliqué. On pourrait se dire que 45 minutes, ça pourrait être mieux, mais non, c'est encore pire. Une heure est encore pire que 45 minutes. Et en fait, moi j'avais vu que la durée idéale, c'est plus ou moins, ça va un peu dans le sens de l'article, c'est 90 minutes. C'est-à-dire que si on dépasse les 20 minutes, Donc déjà, il faut avoir le temps de faire 20 minutes de sieste. 20 minutes de sieste, je pense que quasiment tout le monde peut les avoir. Qu'on travaille au bureau, n'importe où, si on a une pause pour déjeuner, après son repas, on peut se prendre ces 20 petites minutes. Alors ça va faire, si on a 30 minutes pour déjeuner, ça fait 10 minutes pour manger, 20 minutes pour se reposer. C'est pas l'idéal, je sais, mais c'est plus ou moins faisable pour pas mal de personnes. 30 minutes, ça devient plus compliqué. 45 minutes, quasiment personne peut le faire. Et 90 minutes, à moins que vous travaillez ou du matin ou de nuit, ou enfin voilà, que vous ayez un travail ou libre de choisir vos horaires, c'est-à-dire de pouvoir allonger votre après-midi ou travailler plus tôt le matin, enfin bon bref, 90 minutes, c'est très rare. Mais moi, j'ai remarqué que quand vraiment, par exemple, on a un manque, on a une mauvaise nuit parce que, je sais pas, on a été enrhumé ou il y a quelqu'un qui a fait du bruit, ou enfin vraiment une mauvaise nuit où ça peut arriver, on a un stress ou autre qui nous fait avoir une nuit de 5 heures de sommeil, par exemple, donc c'est pas l'idéal quand on souhaite faire une bonne séance de sport derrière, et ben 90 minutes, si c'est possible, moi j'ai trouvé que c'était intéressant. Après, vous savez, l'idée de la sieste, comme il dit, en fait, c'est la théorie du sommeil polyphasique plutôt que monophasique. En fait, il y a eu pas mal de recherches qui ont été faites et qui montraient que, historiquement, si on remonte à nos ancêtres, ils avaient plus tendance à dormir de manière polyphasique, donc c'est-à-dire d'avoir un sommeil avec des coupures, c'est-à-dire ils vont dormir la nuit quelques heures, puis ils vont travailler, faire ce qu'ils ont à faire, et puis ils vont redormir un petit peu l'après-midi, etc. Il y a eu des hackers un petit peu qui se sont plongés là-dedans et qui ont essayé de booster au maximum ça, c'est-à-dire de dormir régulièrement, donc de ne plus faire de nuit de sommeil pleine et entière, mais de plutôt scinder leur sommeil en plein de petites coupures. Moi, tous les retours que j'ai vus long terme, c'était pas positif. Ces gens-là sont souvent revenus à une méthode plus classique, c'est-à-dire de toujours rester en polyphasique, c'est-à-dire d'avoir une sieste mais une nuit de sommeil, et de plutôt rester comme ça. Moi, je trouve que c'est une méthode plutôt intéressante. La méthode de sommeil pleine et entière, elle est un petit peu imposée, c'est-à-dire pleine et entière tout pendant la nuit et rien pendant la journée. Ça, en fait, c'est pas que c'est pas naturel, c'est qu'en fait c'est notre rythme de vie qui nous impose de faire comme ça et pas autrement. Parce que pour 90% des gens, ils n'ont pas le luxe de pouvoir faire une sieste l'après-midi, et quand ils ont une pause pour déjeuner, ils vont plutôt préférer faire autre chose que faire une sieste. Donc du coup, c'est un petit peu le rythme et le style de vie qui impose d'avoir un sommeil toute la nuit et pas du tout la journée, mais ça veut pas dire que c'est forcément l'idéal. Par contre, moi, je suis pas forcément, faut pas oublier que Cristiano Ronaldo, c'est quelqu'un qui n'a que ça à faire, entre guillemets, hein, que d'être un sportif de haut niveau. Donc, du coup, tout ce qui est bon pour sa performance, il le teste, il essaye, etc. Mais comme il dit, dans l'article, je pense qu'ils ont pas assez appuyé sur le fait que c'est ponctuel et pas pour des préparations X ou Y, mais pas permanent. Moi, ce que je vois, en tout cas, c'est que dans le protocole, ce qui ressort, c'est qu'en fait, sur la durée totale de sommeil, il en a plus. Donc, ça peut être intéressant aussi de dormir plus, si vous le pouvez. De s'imposer, de se réveiller toujours tôt alors qu'on se couche tard, c'est pas forcément une bonne idée. Beaucoup se sont cachés derrière l'idée de se lever tôt, c'est ce qu'il faut pour être productif et tout. Oui. Mais il faut pas que ça vienne impacter la durée totale de votre sommeil. C'est-à-dire qu'une personne qui se couche à 1h du matin et qui se lève à 5h30 ou 6h, non, c'est pas bon. Mieux vaut qu'elle se lève plus tard. Si elle peut pas se coucher plus tôt, mieux vaut qu'elle se lève plus tard. Mais l'idéal étant qu'elle se couche plus tôt quand même. Parce que les heures de sommeil avant minuit, qu'on le veuille ou non, tous ceux qui sont un petit peu aiguisés sur la récupération se sont rendus compte que quand ils s'endorment avant minuit, même avant 11h, ils ont une bien meilleure récupération, ils se sentent mieux au réveil que d'avoir un nombre équivalent d'heures de sommeil, mais de s'être endormi après minuit. Donc voilà un peu mon point de vue par rapport à ça. Comme ils disent dans l'article, c'est pas quelque chose qui fait tout le temps. Après, par rapport à la position fœtale, etc., moi je pense que pour le pratiquant de muscu, il y a surtout un intérêt par rapport aux blessures durant le sommeil. Moi, je suis persuadé qu'une de mes douleurs que j'avais aux épaules était due à la position que j'avais pour dormir, mais surtout à la qualité de mon matelas. Parce que je dormais avec le bras sous l'oreiller, sous la tête, et vu que j'avais un matelas de mauvaise qualité, etc., j'étais pas du tout aligné, ça m'étirait beaucoup trop au niveau de l'épaule et je m'étais blessé comme ça. J'en suis persuadé que c'était pas à l'entraînement, enfin l'entraînement y a contribué, mais c'est durant mes nuits de sommeil. Donc imaginez, vous restez pas mal d'heures durant la nuit dans une position qui est pas du tout physiologique et qui est potentiellement stressante pour une zone musculaire, vous pouvez vous réveiller à terme après des des années et des années de cette position avec une blessure. Donc, la position fœtale, est, effectivement, elle a tendance plutôt à mettre presque aucun muscle en tension, sauf les muscles du dos. Donc certains muscles comme par exemple le milieu de trapèze ou le bas du dos qui va être un petit peu lui plutôt étiré plutôt que contracté. Donc mais par contre tout ce qu'il y a à l'avant du corps entre guillemets va être plutôt relâché, sauf les quadriceps, mais les ischios sont relâchés, les fessiers un peu étirés. Alors que le bas du dos sera plutôt le bas du dos c'est ça dépend comment vous êtes en fait, si vous êtes cambré ou si vous êtes pas cambré quoi. C'est si durant la nuit, mais logiquement si vous vous relâchez, votre cambrure naturelle devrait reprendre le ses droits on va dire, et ça doit être plutôt neutre. Mais la position fœtale, en tout cas pour les organes et tout ça, qui a certainement un rôle. Moi, j'avais vu qu'il y avait même un côté pour dormir, c'est-à-dire plutôt côté droit ou côté gauche. Il y avait une recommandation. Bon, le mieux quand même, c'est que vous vous réveillez sans douleur et reposez. Donc, ne vous forcez pas à prendre non plus des positions qui vous mettent dans un inconfort total et vous n'arrivez pas à trouver le sommeil avant 3-4 heures du matin. Le but étant de faire des petites modifications tranquillement. Mais sachez une chose, c'est qu'on peut quand même se blesser durant la nuit. Et moi, j'en suis persuadé, je n'ai pas vu grand-chose là-dessus. Je pense que, enfin, si je cherche bien, il y a des études là-dessus, mais il y a... Enfin, voilà. Le sommeil est quand même à risque de vous... Enfin, c'est quand même un moment du style de vie, on va dire, qui est sujet aux blessures et à l'inconfort. Donc, l'optimiser, ça peut être bien. Moi, mon point de vue, bon, voilà, peut-être qu'il y a quelque chose de plus détaillé sur cet article de Ronaldo, là. Moi, je suis pas pour. Personnellement, je suis pas pour le sommeil comme ça, complètement découpé. Pour plusieurs raisons, parce que, un, c'est pas compatible déjà avec mon style de vie. J'ai un boulot qui me permet pas de faire ça. Et deux, je suis quand même assez convaincu du sommeil durant la nuit. Donc, d'avoir une longue période de repos fixe durant la nuit. Je suis pour les siestes, mais je suis pour la sieste, en fait, pas les au pluriel. Pour de la récupération, etc. Mais après, d'en faire plein comme ça, on rentre un peu dans une forme d'extrême. Et je ne suis pas convaincu que ce soit l'idéal pour monsieur et madame tout le monde. Donc voilà, tu as ma réponse par rapport à ta question. Si tu as envie d'en savoir plus, sache que bon, voilà, tu tapes sommeil sur mon site, tu vas trouver des tas et des tas et des tas de contenus sur le sujet, bien plus poussé que ce que j'ai dit là dans le podcast, bien plus préparé aussi, parce que là, je réponds à chaud comme ça. Et également, si tu as envie de suivre le guide complet du jeûne intermittent, enfin, ou l'art de savoir jeûner intelligemment, entre guillemets, si tu es pratiquant de muscu et si tu souhaites avoir un petit peu des abdos visibles, etc. Durant le confinement, je trouve que c'est une stratégie qui peut être efficace d'ailleurs. Va voir ce que j'ai écrit là-dessus, enfin, ce que j'ai écrit et ce que j'ai filmé surtout, parce que ça dure à peu près une heure. Et tu as également le petit PDF qui va avec. Donc, je te mets tout ça en lien dans la description de cet épisode. Et si tu veux me poser ta question que je traiterai dans le prochain épisode, tu as le lien également dans les notes de l'émission à la rubrique « Posez votre question ici ». Voilà, je vous dis à toutes et à tous bye bye et passez une bonne semaine confinée. Salut.
Non, ne t'inquiète pas, c'est pas chez toi que ça sonne, c'est ici. En fait, c'est juste pour attirer un petit peu ton attention et te dire que tu as devant les yeux, en description de cet épisode, plusieurs liens, dont un pour aller noter mon podcast avec des petites étoiles sur la plateforme que tu préfères, iTunes, je sais pas quoi, Spotify, etc. Mais également, tu peux aller retrouver tous les liens que j'ai cités dans l'épisode. J'ai essayé de faire des descriptions avec tous les liens, comme ça au moins ça vous donne des accès directs à toi et à tous ceux qui m'écoutent, de manière à pouvoir trouver directement le contenu. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à t'abonner sur la plateforme de podcast que tu préfères. Et c'est toutes les semaines à 8h du matin, le mardi. Bye bye.